Ok, alors bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, aujourd'hui, à 2 jours près, c'est un événement pour nous parce que, il y a 1 an, on a eu notre réponse comme quoi on avait un appartement à Saint-Gervais-sur-Roubion. Donc, on avait ça a été le fruit d'une longue attente et on voudrait vous en parler, vous témoigner un petit peu de ce parcours qui a été le nôtre. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on est arrivé de Bretagne pour migrer vers le sud. Voilà, donc la première étape, ça a été d'abord de quitter la Bretagne, donc il y a maintenant 2 ans. C'était une idée qui trottait dans notre tête depuis déjà 2 ou 3 ans. Je disais à Claire, ah, si un jour on déménage, on ira du côté de Lyon, on ira dans la vallée du Rhône. Voilà, moi j'ai envie de soleil, j'ai envie d'autre chose. Donc il y avait cette envie de partir à l'aventure, de vivre quelque chose de nouveau. Il y avait la scolarité de Timothée qui passait en sixième. Et on s'est dit, bah, s'il y a bien un moment dans la vie d'un enfant où ce sera le moins catastrophique de changer, c'est le passage entre le CM2 et la sixième. Parce que si on change un enfant en plein milieu de son collège, au niveau des amitiés, on sait que ce n'est pas toujours très facile. Donc on s'est dit, là, c'est le moment. C'est le moment, les plus petits, ils s'adapteront plus facilement, ils sont encore à l'école. Et puis, il y avait ce projet aussi, on était entouré dans nos familles, dans nos amis, de gens qui avaient fait l'école chrétienne, et hors contrat, et on s'est dit, bah, on a aussi envie de tenter cette aventure-là. L'ouest de la France est pas connu pour cette capacité à ouvrir des écoles hors contrat, et du coup, on a un peu regardé ce qui existait en France, et du coup, du côté de la vallée du Rhône. Et donc très rapidement, en fait, on a vu que ça pullulait dans la vallée du Rhône, de Lyon jusqu'à Marseille. Il y avait des écoles chrétiennes. On s'est dit, ok, bon, bah, là, c'est tout trouvé. Et alors une autre raison qui nous a poussé aussi à partir, enfin, à vouloir aller ailleurs que la Bretagne, c'est que c'est par rapport à l'église où en fait on a vécu dans une assemblée qui était vraiment extraordinaire et qui a fermé suite au Covid pour diverses raisons. Et on retrouvait plus notre identité. C'était difficile spirituellement de trouver une communauté qui nous corresponde. Et donc, on a eu envie de retrouver une communauté qui nous parle, dans laquelle on puisse apprendre à grandir, apprendre à servir, et être aussi entouré de personnes de notre génération. On apprécie énormément les enfants et les personnes plus âgées, mais c'est aussi agréable dans une communauté de pouvoir partager des choses avec des gens de votre âge. Donc, ça, c'était quelque chose qui était important pour nous. Et pour les enfants aussi, qui puissent avoir des amis, donc qu'il y ait aussi des familles. Tous ces critères-là, on les a posés devant le Seigneur. On a dit, ok, ben, écoute, Seigneur, nous on sent que c'est peut-être une fenêtre là qui s'ouvre pour partir, ce serait le moment. Mais voilà, nous on veut trouver une église comme ça, on veut trouver des écoles, on veut trouver. Voilà, il y a différents critères. Et très rapidement, dans cette vallée du Rhône, on a ciblé 2 endroits qui étaient donc Valence et Montélimar. Valence parce que on a entendu parler de l'école et d'un collège pour Timothée. On savait qu'à l'Oasis, pour ceux qui connaissent, donc c'est là où on va faire le week-end de rentrée, il y avait un logement qui nous attendait. Voilà. Et Montélimar parce qu'on a entendu parler de la famille Trefcon par des amis et on a entendu parler de l'église Connect. Claire, tu avais eu l'occasion d'y aller une fois un culte, je crois, même pas encore, pas à cette époque-là. Donc on a entendu parler de Montélimar et de ces deux aspects-là. Et des gens nous avaient dit, oh, il faut absolument que vous rencontriez la famille Trefcon, je suis sûr que ça va matcher avec eux, vous allez super vous apprécier, ils ont aussi des enfants, vous allez voir. Donc on est parti avec cette idée-là en direction de la vallée du Rhône.
Alors, les enfants, on se replonge 2 ans en arrière, septembre 2022. Okay. Et donc, c'est notre première visite par ici, dans la région. Et on est allé voir en premier ce fameux lieu-là, l'Oasis, parce que vraiment tout semblait s'ouvrir, en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, si on va voir comment Dieu parle. Il y avait tout qui était là devant nous. Donc, Nicolas le disait, il nous proposait un logement, le collège, les places, l'école, enfin tout, une église très chouette et tout ça. Et on est arrivé là-bas et en fait, on sentait comme un poids, on sentait pas de conviction, presque une tristesse. Pourtant, ce lieu est magnifique, vous allez voir, les gens sont super. Donc, il n'y avait rien dans le naturel qui laissait supposer qu'on ne se sente pas à notre place là-bas. Mais pourtant, on a vraiment senti que c'était pas ça. Enfin, on a senti. En tout cas, on sentait pas le pétiment. Et puis, on a continué notre route et on est passé. On s'est arrêté 2 heures chez les Trèfcons parce qu'on nous avait dit. Ma cousine m'avait dit, il faut absolument que tu les rencontres. La première fois que j'ai vu Emmanuel, j'ai pensé à toi en pleurant. Je sentais qu'il y avait un truc et tout ça. Donc, je me suis dit, ok, allons voir. Donc, la famille Trèfcons, Mathieu et Emmanuel, pour ceux qui savent pas, ils font partie de l'équipe de responsables de l'église. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ils sont pas là. Donc, vous les avez pas vus, mais ce sont des gens vraiment super. On s'est arrêté 2 petites heures chez eux et on a discuté. Et là, il s'est vraiment passé un truc, vous savez, une connexion divine. Tu sais pas trop pourquoi, mais c'est comme s'il y avait une excitation spirituelle qui commençait à arriver, quoi. Quelque chose, on se disait, il se passe quelque chose avec ce lieu. Et puis voilà, on échange avec eux, on prie avec eux, et finalement, on rentre dans le nord, en Bretagne. Et là, on se dit, ben, c'est fou parce que on a rien vu, ni de l'église, ni de l'école, ni de des environs, enfin la région, rien du tout, tout ça. Mais il y avait eu une rencontre et on sentait que Dieu était en train de planter les prémices de quelque chose. Voilà. Alors, on mettait ça un petit peu de côté parce que nous, il y avait un critère qui était important. Nicolas le disait, c'était ce fameux collège pour notre cher Tim, Timothée. Or, ici, l'école avec laquelle on voulait aller, il s'arrêtait au CM2, il n'y avait pas de collège. Donc, on sentait qu'on avait envie, mais en même temps, ça semblait pas correspondre à nos critères. Puis au début, comme on avait fait une bonne liste au Seigneur, on s'est dit, bah non, Dieu va répondre à nos critères, quoi. Ça, c'est vraiment important. Donc, on était un peu dans l'entre-deux. Et puis finalement, les semaines passent. On arrive en décembre et puis, du coup, on ne vous raconte pas tous les détails, mais Dieu a parlé vraiment d'une manière différente pour moi, puis pour Nicolas. Et début décembre, moi, j'ai senti qu'il fallait vraiment qu'on prenne une décision et qu'au moment où on allait se positionner, il y a des choses qui allaient s'ouvrir et des confirmations qui allaient arriver. Donc là, on a pris une décision un peu folle de dire qu'à la proposition qu'on nous avait faite à l'Oasis, non, on ne viendra pas, et de dire qu'on allait venir à Montélimar. Donc on a commencé à prévenir tout le monde. Dans 6 mois, on n'est plus là, pour la rentrée de septembre, et on part à Montélimar. On ne sait pas trop encore pourquoi, mais on sent que c'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, après avoir pris cette décision, c'est comme si les confirmations que c'était le bon chemin commençaient à arriver. Et il y a quelque chose que je trouve très beau, c'est que c'était une aventure familiale et que Dieu a utilisé aussi les enfants et la famille pour nous parler. Et Timothée, tu veux venir ? Timothée a dû apprendre une poésie à l'école que la maîtresse lui avait imposée. Donc c'était même pas lui qui l'avait choisie et c'était assez dur de l'apprendre. Un beau poème de Maurice Carême, mais c'était dur d'apprendre. Et du coup, on s'est dit, bon, on se motive, on va le faire tous en famille. Donc on se mettait à table et on essayait d'apprendre les vers les uns après les autres tous ensemble. Et puis en fait, tout d'un coup, on a réalisé que cette poésie, ce poème, eh ben, il parlait de nous, de là où on en était, et du coup, je propose d'être à côté de la lire.
Prenez du soleil dans les creux de main, un peu de soleil et partez au loin. Partez dans le vent, suivez votre rêve, partez à l'instant, la jeunesse est brève. Il est des chemins inconnus des hommes, il est des chemins si aériens. Ne regrettez pas ce que vous quittez, regardez là-bas l'horizon briller, loin, toujours plus loin. Partez en chantant, le monde appartient à ceux qui n'ont rien.
Les paroles. Donc c'était des petites choses, mais ça nous parlait, vous avez bien compris, de soleil, de vent, c'est quand même connu ici pour ça, nous voilà, les chemins si aériens, voilà, nous on s'est dit, bah ouais, il y a des chemins divins qu'on ne maîtrise pas encore, mais partez, voilà, le monde appartient à ceux qui n'ont rien, et je veux juste quand même préciser qu'on savait pour nous que quitter le logement où on était pour y trouver un autre, ça allait être quand même un gros défi, parce qu'on était en location. Et qu'aujourd'hui, trouver de la location quand on est auto-entrepreneur et qu'on ne travaille pas, c'est un peu compliqué. Donc on savait que là, il y aurait un bon géant devant nous et on savait ce qu'on allait quitter en termes de confort de vie, d'habitat, de logement. Et on ne savait pas du tout où on allait se retrouver. Mais voilà, la décision était prise et donc petit à petit, il y a eu des confirmations comme ça. Je pense que je te donne la parole.
Yes. Voilà, je... Je pense que tu l'as dit, mais j'aimerais vraiment en fait faire ce focus sur les deux propositions qui nous avaient été faites entre l'Oasis où on avait un logement, on avait une école, on avait un collège, on avait c'était du clé en main en fait presque en allant à Valence et à Montélimar, il y avait rien. Et je crois que c'est vraiment un truc complètement fou. Quand les gens, on leur a dit, on va aller à Montélimar, on leur a dit, ah, pourquoi ? Parce que du coup, t'as un boulot là-bas ? Non. Vous avez une maison ? Non, on n'a rien en fait. Ah, voilà. On connaît des gens, une famille super sympa, apparemment ils ont l'air cool. Bon, c'est un bon début, hein. Voilà, comme quoi. Et donc tout ça, ça nous a amené à faire une deuxième visite. Alors, sans les enfants, encore une fois, juste tous les deux pour vraiment prendre le temps de ne pas être perturbé par la gestion des enfants à côté. Et donc on est revenu en février, on a profité de 3-4 jours d'un long week-end en février, donc 2023 cette fois, pour descendre vers la terre promise, ce qui était pour nous une terre promise. Et il y a eu plusieurs éléments. On a été alors d'abord accueillis par la famille Bert, qui nous a très gentiment accueillis, qui a ouvert ses portes. On a découvert l'église, on a découvert l'école, et... Alors c'est peut-être, vous allez dire c'est anecdotique, mais on a mangé avec les Sarkis. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'autre, un des autres couples responsables de l'église, donc à qui on a eu un repas. Et en fait, dans tous ces moments-là qu'on a eu, on a eu énormément d'échanges. Chez les Bert, on a entendu parler, alors Mathieu nous avait parlé d'une possibilité, peut-être qu'un jour il y a un collège avec l'école chrétienne de Montélimar. Et puis là, Fabrice nous parle d'un projet qui est quand même beaucoup plus concret, que lui-même porte, que lui-même chapeaute, tout ça. Et là, on ouvre des grands yeux avec lui, on se dit « Waouh !» On a dit oui, alors qu'il n'y avait pas de collège. Et là, on nous parle d'un projet de collège qui va potentiellement ouvrir en septembre. C'est fou. On découvre Connect, il y a de la danse, il y a des bannières, il y a une sensibilité au prophétique qui est là. Il y a une vraie famille, une vraie communauté. On découvre l'école, donc on rencontre les enseignantes, on découvre l'univers de l'école, qui nous fait un bien meilleur feeling que l'école de Valence. Rien à voir avec une terme de qualité. C'est juste que quand on arrive à Valence, on a vu l'école, on se dit oh, ouais, c'est ça l'école chrétienne. Alors, on sentait pas le truc. Je crois que vraiment Dieu a travaillé notre sensibilité. Et quand on est arrivé à l'école de Montélimar, on se dit ah ouais, c'est quand même mieux. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, mais il y avait là, Dieu voulait nous mettre une lumière sur ça. Et dans ce repas avec les Sarkis, qui a été important, parce qu'on a parlé de tout ce qui se passait dans l'église. Des groupes à qui il est doux, des groupes de jeunes, de cette famille d'entrepreneurs qui est dans cette église. On est passé dans pas mal d'églises et on a rarement vu autant d'entrepreneurs et de gens qui sont avec des visions de travail dans une même église. Et il y avait cette envie d'ouvrir un jour des maisons de prière. Donc plein de choses en fait qui parlaient à nos cœurs tellement. C'était comme si Dieu cochait des croix au fur et à mesure, disait « Ah, vous avez vu, il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et ça, waouh, venez à Montélimar. » Donc il y avait une vraie possibilité de construire quelque chose, de trouver une place, et donc grandir et servir comme je disais tout à l'heure. Là, il y avait quelque chose qui se mettait là. Mais tout ça... C'était des cases qui nous faisaient dire waouh. Mais dans le concret, il y avait toujours pas de logement, il y avait pas plus de travail. Voilà, il y avait des grandes incertitudes, même pour l'école. L'école super, mais est-ce qu'il y aura de la place pour nos enfants? C'est jamais certain, parce qu'en fonction du nombre d'enfants qui sont déjà présents dans les classes, peut-être que ce sera pas possible. Donc encore des incertitudes. Tout ça, c'est un peu comme des géants. Et pour nous, on a vraiment fait ce parallèle. Comme les espions qui sont allés en terre promise et qui sont revenus. Ben nous, on est revenus dans notre Bretagne chérie et on a dû faire le choix de soit se fixer sur les géants qui étaient devant nous, ces incertitudes, ce pas de travail, ce pas de logement, ou tous ces petits trésors, toutes ces petites choses où Dieu avait dit « Vous avez vu ce que je mets devant vous ? Franchement, c'est là que je veux de vous. » Alors, c'est sûr, on aurait aimé avoir une parole prophétique, avoir des paroles très claires où on nous dit oui, on vous voit à Montélimar dans une jolie maison en pierre, dans une assemblée qui va, dans laquelle vous allez avoir une place, machin. Cette parole-là, on l'a pas eue. Évidemment, ça aurait été plus pratique pour les temps qui restaient, parce qu'on était encore qu'au mois de février, on est arrivé en septembre, il restait 6 mois, excusez-moi, à se faire comme ça, à attendre, et pas de logement, pas de boulot, tout ça. Avec une parole prophétique qui est très très claire, bon bah ça nous aurait un peu aidé à tenir. Voilà, je te donne la...
Donc voilà, c'était l'attente, mais il y a un verset qui nous a marqué, c'est dans 1 Corinthiens 10, verset 13, qui dit « Dieu est fidèle et bon, il ne permet pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces ». Et donc, dans cette attente, on avait quand même des forces qui étaient vacillantes à certains moments. Et on s'était accordés tous les deux en disant « Bon, bah, Seigneur, si au 31 mai, il n'y a pas de piste sérieuse de logement, eh bien, peut-être qu'on remettrait tout en question, ça veut peut-être dire qu'on s'est trompé, en fait, et qu'on a mal entendu. Voilà, c'était notre, comme notre toison, vous savez, Gédéon a fait ça avant de partir, il a dit d'un coup il faut que ce soit, qu'il y ait de la rosée autour de la toison et puis après que sur la toison, enfin voilà. Donc là, on sentait que c'était nous, notre seuil à nous, nos forces elles allaient jusque là, parce qu'après il fallait quand même qu'on pose un préavis et puis on savait qu'une fois le préavis posé, 3 mois plus tard on était à la rue. Donc on a posé cette toison, les semaines s'écoulent et l'échéance approche autour du 31. Et là, quelques jours avant, moi je suis super découragée, je me plains au Seigneur, pourquoi tu réponds avec précision aux autres et pas à nous, ils ont des paroles de dingue, ma cousine a toujours des histoires incroyables, je salue mon oncle et ma tante qui sont là, il s'agit de leur fille, toujours des histoires incroyables pour partir en Afrique où Dieu parle avec précision sur plein de choses et tout, puis nous, ben, y a pas, c'est pas clair, enfin, on a ressenti mais... On aurait tellement aimé qu'il y ait quelque chose qui vienne de l'extérieur, vous voyez ce que je veux dire, quoi, la parole qui s'impose. Donc l'échéance approche, moi je me plains, et là, ce jour-là, je suis un peu découragée, je reçois un message de Caroline, du coup il y en a beaucoup d'entre vous qui la connaissent maintenant, Caroline, la femme de Chifnas. Et Caroline me relaie un message de quelqu'un que vous connaissez aussi, qui s'appelle Samira. Je ne sais pas si Samira elle est là aujourd'hui, je ne l'ai pas vue. Non, elle n'est pas là. Ah, Samira, elle a été trop bien. Et donc en fait Caroline et Samira se connaissaient et le message de Samira c'était tes amis de Bretagne cherchent-ils toujours un logement? Il se trouve que ma voisine déménage et cette voisine en question était dans un logement HLM et nous on avait fait une demande de HLM donc on était enfin on pouvait prétendre à ce logement là et puis on apprend que Samira elle connaît bien aussi l'adjoint au maire qui s'occupe de ça, enfin bon la piste semblait vraiment sérieuse donc moi j'ai cherché sur la carte la Lopi c'est où, c'est là, ok peu importe, en tout cas il y a peut-être quelque chose là-bas. Et ça a été suffisant pour nous être notre réponse à cette toison et nous donner la force de continuer. Donc on a déposé notre préavis et puis je fais la suite assez rapidement, mais fin juin, on a appris que finalement c'était définitif, il n'y aurait pas de collège. Donc ça c'était dans le critère en haut de notre liste et puis le Seigneur nous avait appâté par ici en nous proposant quelque chose qui ne s'est pas fait. Mais en fait Dieu sait, Dieu est bon. On apprend qu'il n'y a pas de collège et puis finalement ce logement à la Lopi ça ne fonctionne pas du tout. Mais nous, maintenant, on avait donné notre préavis. Donc, on a fait nos cartons, on a dit au revoir, on a fait un pot de départ. Je pense que les gens nous ont trouvé un peu fous. Vous partez pourquoi ? On ne sait pas trop, mais on part. Voilà, on était quand même bien implantés là où on était. Et puis, l'été passe, et en fait, donc Nicolas disait, c'était précisément le 23 août. On visite une maison à Saint-Gervais, mi-août, et le 23 août, enfin, on nous dit, c'est bon, on vous valide votre dossier qui était absolument... bancal, très précaire et tout ce que vous voulez, mais Dieu était notre garant. Et donc, voilà, on a appris qu'on pouvait venir ici. Et on est arrivé le jour de la rentrée des classes. Donc, c'était un peu sport, mais on était là. Et dans tout ça, on est content que vous nous connaissiez un peu plus, mais surtout, on voudrait vous dire qu'on en a retiré des enseignements sur comment Dieu agit avec nous. Et voilà, ce qui fait en nous. Je voulais retenir 3 points de cette histoire. Première, c'est qu'il y a un verset dans Job 33 qui dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre ». Et parfois, on aimerait que Dieu parle, voilà, je vous disais l'histoire de la parole qui vient de l'extérieur, c'est Montélimar, bon bah, au moins, tu t'accroches à quelque chose et tu le sais. Ben là, non. Mais Dieu parle à Nicolas d'une manière très différente de la façon dont il me parle, parce qu'en fait, il nous connaît chacun. Il parle aux enfants encore d'une autre manière. Il a parlé peut-être aussi avec la maîtresse. Merci la maîtresse et cette poésie. Et en fait, dans tout ça, je pense que Dieu nous entraîne à aiguiser notre oreille, à apprendre à l'écouter, à l'entendre et à reconnaître sa voix. C'est sûr, ce serait plus simple si ça venait de l'extérieur, mais en fait, ça nous fait grandir. On est ses enfants et ce qu'il veut, c'est que nous, on apprenne à l'écouter et à reconnaître sa voix. Donc, on doit chercher par nous-mêmes. Et puis, parfois, on prend une décision et c'est après qu'on a la confirmation et que Dieu nous dit c'était bien ça. Donc voilà, Dieu parle. Et ils nous parlent tous. Un deuxième point que je voudrais dire, c'est que quand on veut partir de quelque part, enfin si en tout cas on veut aller vers ce que nous on avait appelé notre terre promise, donc pour tous ceux qui habitent en Drôme, soyez fiers, ici c'est la terre promise. Si tu veux aller dans ta terre promise, ça peut être là, c'était une question géographique, mais ça peut être dans plein de domaines de ta vie, il faut d'abord que tu quittes quelque chose. Et il y a quand même une parole qu'on avait reçue dans une prière, quelqu'un qui nous a dit, c'était très succinct, mais moi ça m'est resté profondément, c'était... Il est temps de quitter votre zone de confort. Et ça faisait écho à un livre que j'avais lu un petit peu plus tôt, un livre de Alain Caron, qui s'appelle « Une année pour la transition », dans lequel il raconte, en fait, à l'image de ce que les Hébreux ont vécu. Donc, vous savez, ils ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert, Ils ont déambulé un peu et puis ils arrivent au pied du mont Horeb, le mont Sinaï. Et là, ils y restent un petit bout de temps et ils se placent plein de choses. C'était un bon lieu pour eux. C'était un lieu assez confortable puisque Dieu leur parlait. C'était le lieu de la provision, ils ont trouvé de la manne. C'était le lieu de la présence de Dieu. Vous savez, Moïse est monté 40 jours, 40 nuits. Puis il est dit qu'il y avait une nuée glorieuse qui était là. Donc Dieu était vraiment présent. C'est le lieu où Dieu a donné aussi des instructions pour son peuple. Donc ils étaient bien là où ils étaient. Mais si on continue la lecture d'Exode, à un moment donné, on arrive à Exode 33. Et là, Dieu, maintenant, il leur dit, maintenant, c'est le temps de quitter cette montagne pour aller à la conquête de votre terre promise. Et ça, ça résonnait. Je me disais, mais oui, en fait, si tu veux, à un moment donné, aller plus loin vers ta terre promise, tu vas être obligé de quitter quelque chose. Et même si ce quelque chose est bon, et même si tu étais à ta place au moment où tu étais, et même s'il y avait la présence de Dieu là où tu étais. Parce que nous, quand on était donc à Rennes, c'était vraiment, on était très bien là-bas. On a vécu des supers années, on était à notre place, enfin, c'était le confort. Mais à un moment donné, eh ben, si tu veux aller plus loin, il va falloir quitter sa zone de confort pour aller vers la terre promise. Et puis, la dernière chose, un petit point, j'ai noté ça. C'est le verset que je citais tout à l'heure. Dieu est fidèle et bon, il ne permet pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Et du coup, ça fera la transition avec ce que tu veux dire, mais on s'est dit, en fait, c'est quoi le but de l'épreuve ? On aurait tous plein d'épreuves, là, on vous raconte un petit morceau de notre vie des derniers mois, mais on aurait tous plein d'épreuves à citer, relationnelles, au niveau du travail, au niveau de la santé, au niveau de nos... Il y a plein de choses, voilà, on aurait tous plein d'épreuves. C'est quoi le but de l'épreuve ? Et il y a un verset dans Jacques 1 qui dit, l'épreuve, je le fais court, mais réjouissons-nous, car l'épreuve produit la persévérance. Et ça, c'est aussi marqué dans Romains 5. L'épreuve produit la résistance qui produit... Enfin, c'est d'abord l'épreuve produit la persévérance ou la patience, c'est le même mot. Et ça produit la résistance et ça produit l'espérance. Et donc, le but de tout ça, de tout ce qu'on est en train de vivre, et ça rejoint un peu ce que Elia nous partageait tout à l'heure, on lâche prise, mais on sait que derrière l'épreuve, il y a une espérance qui est bien plus grande. Et l'espérance, juste j'ai regardé le mot grec qui est utilisé dans ces versets quand il parle d'espérance, ça veut dire... Espérance d'un bien, c'est une attente joyeuse et confiante. Voilà, sauf que dans la réalité, c'est pas toujours facile d'être joyeux et confiant quand on attend.
Ouais, carrément. Alors, bon, théologiquement, c'est quelque chose que moi, je dis amen, je dis waouh, trop bien, c'est, la parole est forte et puissante, c'est génial, la persévérance, l'attente joyeuse et confiante, génial. Ouais, sauf que la mise en pratique, pour moi, elle a été beaucoup plus difficile. Pendant cette année de transition. Alors, peut-être que parce que je suis l'homme de la famille et que c'est moi qui travaillais, qui ramenais le salaire à la maison, j'avais la charge financière de la maison et qu'il y avait aussi dans ma petite tête une petite case, ok, je pars, mais je pars pas juste pour une église, juste pour le bien de mes enfants qui vont être dans une école et collège, tout ça. Il y a aussi que je dois travailler pour subvenir aussi aux besoins de la famille. Donc il y avait cet aspect travail qui était très important pour moi. Et ça a été une période qui était très très inconfortable, liée à l'attente, d'avoir Seigneur, qu'est-ce que tu dis ? Ok, ce n'est que des ressentis, que du... Ah ouais, je sens qu'on doit aller là-bas, vraiment, on va aller à Montélimar parce qu'on sent que c'est là-bas que ça doit... Mais quand est-ce que tu parles, Seigneur ? Et puis, l'incompréhension de ce temps qui était si long. Je n'ai pas arrêté de dire pendant cette année, mais Seigneur... En fait, pourquoi est-ce que simplement si tu veux nous envoyer là-bas et que c'est ton plan, donne-nous une maison ou ouvre un travail, enfin quelque chose qui fasse que d'avance on sache qu'on soit dans la paix, de faire notre déménagement tranquillement et de voir l'été arriver et de pas être comme ça pendant 3 mois jusqu'à la deuxième quinzaine d'août à se dire oh, mais qu'est-ce qu'on va faire, on va aller où, on sait pas, et puis des centaines de personnes qui vous disent alors vous avez trouvé un logement? T'as trouvé un travail ? Bah non. Voilà, je continue. Hein, bille en tête, je reste sur mon projet, mais j'ai rien. Voilà. Et puis cette impression en fait de pas entendre Dieu, de plus entendre Dieu, et puis qui amène du doute. Voilà, c'était toute une période un peu cette année là, l'année dernière de projet qui était un peu compliqué pour moi. Et puis on est arrivé à Montélimar. Oui, c'est un fait. Nous avions une maison. Et en fait, il m'a fallu à peu près 2 mois pour réussir en fait à réaliser la bénédiction qu'était cette maison pour nous, la bénédiction qu'était cette région, cette église, enfin tout le package qu'on attendait, sur lequel j'espérais, j'avais de l'espoir et de la foi dans la bénédiction de Dieu. Ben en fait, une fois que je l'avais, Voilà, il m'a fallu 2 mois pour réaliser que je l'avais, parce qu'en fait, un jour, et je m'en rappelle très bien, c'est un matin où on a prié ensemble avec Claire, parce qu'en fait, je me sentais éloigné de Dieu, je me sentais de plus pouvoir aller dans la présence de Dieu, parce que j'étais, quelque part, je pense qu'il y avait de la déception, j'étais voilà, blessé par le manque de cette impression de ne pas entendre Dieu. Et ce matin-là, j'ai décidé de dire, OK, mon focus, il ne doit pas être sur ces fameux géants dont on parlait tout à l'heure. OK, alors pour la petite blague, désolé, je vais la faire, mais on n'avait pas la fibre à la maison. Bon, pour le travail, j'en ai besoin. Et littéralement, ça a été un truc. Je me disais, mais j'ai pas la fibre, quoi. À la maison, j'ai pas la fibre. Elle est où la bénédiction? Des petites choses comme ça. Et puis en fait, j'ai décidé de me dire, OK, bon, j'ai pas la fibre. OK, j'ai pas un travail qui m'attend là tout de suite. OK, la maison, elle n'est pas parfaite. Mais en fait, je me focalise sur Dieu. Je regarde ce qu'il a fait. Et quand je me focalise sur Dieu et que je vois ce qu'il a fait, là, mes yeux du matin au soir se sont ouverts et j'ai réalisé tout ce que Dieu avait fait, en fait, toute cette bénédiction, combien elle était énorme au final. Voilà. Et j'ai appris à me réjouir de nouveau dans la présence de Dieu et à être, voilà, à remercier Dieu pour ça et voir Dieu agir dans notre vie. Mais ma situation professionnelle de cette dernière année, donc depuis septembre, m'a progressivement impacté de plus en plus, c'est-à-dire que bon bah au début tu te dis bah c'est normal, j'en arrive dans une nouvelle région. Donc pour ceux qui savent pas, je suis auto-entrepreneur en vidéo, donc c'est quand même une question de réseau énormément. Et je me suis dit bon bah c'est normal, le temps que je m'installe, que je fasse ma pub, ma com, que les gens me connaissent, c'est normal qu'il n'y ait pas de contrat au début. Puis au bout de 6 mois, tu te dis bon peut-être que ça prend un peu de temps, c'est peut-être l'hiver dans la région, il n'y a pas trop de projets. Puis au bout de 9 mois, et puis au bout d'1 an, en fait, voilà, je suis rendu à presque 1 an plus tard. Et littéralement, j'ai travaillé sur 3 contrats liés à la région. Donc c'est quand même très très peu. Là où je suis censé en faire au moins 2 ou 3 par mois, j'ai fait 3 ou 4 contrats dans l'année. Donc si vous voulez, la situation professionnelle, moi, elle m'a un peu miné. Et je me suis dit, OK, Seigneur, c'est génial. Je suis là. Alors je vois pour le collège pour Timothée. Super, les enfants, l'école, génial. Je vois Claire qui aussi s'investit dans l'église, qui travaille pour l'église. Enfin, je vois la bénédiction pour plein de personnes de ma famille. Et moi, je suis là en train de dire au Seigneur, et moi, je fais quoi en fait là? J'ai envie de travailler, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de ramener de l'argent à la maison aussi. Elle est où la bénédiction? Enfin, pourquoi tu m'as envoyé ici? Et je pense que ça m'a bien pris le moral, et jusqu'à encore quelques semaines, et je pense que la préparation de ce message m'aide énormément. En fait, je me suis littéralement senti perdu dans le brouillard au fur et à mesure du temps, et j'étais complètement de nouveau enfermé à me dire, mais en fait, je vois pas, enfin, ça a pas de sens, bah, c'est super pour les autres, mais moi, je suis pas béni. Voilà. Et ça a été vraiment une année compliqué. Et il y a de nouveau cette distance avec sa présence, plus envie de lire la Bible, plus envie de louer, plus envie de voilà. Et c'est aujourd'hui, pour moi, ce qui est le plus douloureux en fait. C'est comme ce qui s'était passé en octobre dernier, c'est de pas pouvoir me réjouir. Je connais Dieu, je sais de quoi Dieu est capable. Alors, théologiquement, et puis même, il y a des choses que j'ai vécues dans ma vie, et je sais que Dieu est bon, je sais que Dieu est puissant, je sais que Dieu a un plan pour ma vie, que Dieu ne m'a pas fait venir à Montélimar pour bénir le reste de ma famille, mais pas moi. C'est pas les plans de Dieu, ça. Donc tout ça, j'en suis conscient et voilà, je suis assuré de la bénédiction de Dieu et du bien fondé de ce plan de Dieu pour ma vie ici à Montélimar. Mais les situations, moi, je me suis laissé un petit peu obscurcir par tout ça. Et j'ai réalisé, en fait, en préparant ce message, que Dieu, il a attendu à chaque fois que nous fassions un pas, qu'on prenne une décision, qu'on fasse un choix, pour après amener une confirmation, amener une bénédiction, amener une ouverture des portes qui s'ouvraient, mais il a à chaque fois attendu qu'il y ait ce premier pas. Et ça, ben moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que c'est clairement une école de la confiance, une école de la foi et de la persévérance. Et aujourd'hui, je me dis, mais peut-être que ma situation, elle est pas ouf professionnellement. J'aimerais que ce soit complètement différent. Je voudrais encore une fois, que Dieu ait parlé, que prophétiquement, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu verras, en décembre, il y a un gros contrat qui va tomber, et tu vas rencontrer des super réalisateurs et tout ça. Oui, sauf que ça n'est pas là et ça ne doit pas entacher ma foi, ça ne doit pas entacher mon espérance de ce que Dieu va faire. Donc, aujourd'hui, je vois cette épreuve différemment et on a envie avec Claire aussi de pouvoir vous encourager aussi à faire ce premier pas pour voir des portes s'ouvrir dans vos vies. Aujourd'hui, ma situation elle est pas réglée parce que j'ai pas de contrat, et professionnellement ça s'est pas ouvert, mais c'est pas grave en fait. C'est pas ça qui doit définir mon état d'âme et ma joie de vivre au quotidien. C'est pas ça. C'est l'espérance que j'ai en Christ et l'espérance de savoir que derrière ce brouillard, il y a quelque chose. On dit souvent, vous savez, quand il y a des nuages, le soleil il est toujours là. Et ben derrière ce brouillard, derrière ces nuages qui sont là en ce moment, il y a Dieu qui est là, qui est présent et qui bénit. Donc ça va demander d'oser quitter sa zone de confort pour partir à la conquête d'un terrain promis. Et ça, on veut pouvoir, avec Claire, prier pour ceux qui en ont besoin ce matin, ceux qui ont envie qui sont dans des défis comme ça, de dire moi je vois pas ça et ça, il y a l'espérance, elle est en train de disparaître, là j'abandonne tout, que ce soit pour la santé, les relations, le travail, enfin quoi que ce soit. Et on veut vraiment pouvoir vous inviter à venir. Vous manifestez parce qu'en fait il n'y a pas de honte à être dans un moment un peu gris, on va dire, pour pas dire parce que c'est pas fun. Et puis juste de pouvoir prier ensemble autour de ça et se tenir les uns avec les autres pour aller se focaliser sur l'espérance qui est derrière et pas ce brouillard qui est devant.